Ben écoute, le premier sujet dont on allait parler, c'est l'arrivée de Dominique Anglade dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Dominique Anglade, qui est la première candidate à se présenter au sein de cette course, qui pour l'instant là, n'a pas soulevé beaucoup d'enthousiasme. Dominique Anglade, évidemment, est une ancienne caquiste. Ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'elle est une personne, une femme. Il n'y a jamais eu de femme qui était chef du Parti libéral du Québec. C'est également une personne qui vient d'une minorité visible. Donc, c'est une candidature intéressante. Nicolas, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, écoute, je pense qu'elle est bien organisée, qu'elle est bien partie. Là, elle a quand même l'appui de 7 de ses collègues. Là, c'est quand même pas rien là, quand on sait que le caucus libéral maintenant est à 29 députés. Puis on parle quand même de l'appui de l'ancien ministre des Finances, Carlos Letta. On pense entre autres à Hélène David. Donc, je pense que pour l'instant, c'est très clair que c'est la favorite là, parce qu'on sait que des candidats comme André Fortin, ouais. Sébastien Proulx, des candidats potentiels se sont désistés. Marois Risky, bon, on sait qu'elle va se présenter, mais c'est plus pour se faire connaître que pour gagner, parce qu'elle ne semble pas avoir vraiment d'appui, puis franchement, elle n'a pas beaucoup d'expérience politique. Donc, c'est bien parti pour Mme Anglade, sauf que, selon moi, il y a un problème dans le sens où elle n'a pas encore de message. Là, parce que quand tu te lances à une course au leadership, puis tu as toutes les caméras devant toi, puis là, tous les journalistes veulent savoir ce que tu as à dire, bien, en 2019, je pense que c'est bon d'avoir au moins un ou deux messages de contenu qui s'adressent autant aux militants qu'à l'électorat. Je vais te donner un exemple. En 2005, tu avais André Boisclair qui se présentait. Il y avait toutes les caméras devant lui, mais il ne répondait pas à la question que tous les journalistes se posaient. Qu'allez-vous faire avec le référendum? Même chose à Pauline Marois. Autrement dit, quand tu es dans un parti qui doit non seulement se reconstruire, mais qu'il doit se redéfinir, parce que c'est le cas du Parti libéral, ben faut que tu ailles plus à dire quand tu as un Kodak devant toi qu'on a manqué d'écoute, puis que là, on va rencontrer militants, puis on verra quelles bonnes idées on sortira à l'automne. C'est très différent, par exemple, qu'en 2015, quand les conservateurs ont perdu, eux, ben, tu sais, Andrew Scheer, il y avait un mandat de reconstruction. Là, on ne parlait pas de redéfinir le Parti conservateur, on parlait de reconstruire, là, bon, là où il avait perdu des circonscriptions, mais le Parti conservateur était encore fort, une centaine de députés, puis dans le fond, c'était de voir si Justin Trudeau allait bien faire ça, puis allait être capable de maintenir ses appuis. Là, dans le cas du Parti libéral, là, ça fait depuis les années 80 qu'ils se définissent comme un parti fédéraliste qui empêche le Parti québécois de tenir des référendums. Ouais. En gros, c'est ça le message.
Ouais, ça fait plus partie vraiment de l'équation avec l'état du PQ présentement. Mais bon, dans le cas de Dominique Anglade, moi, je vois deux autres problèmes. Dis-moi ce que tu en penses. Premièrement, Dominique Anglade, c'est une transfuge de la CAQ. Comment les militants libéraux vont prendre ça?
Ben, on le voit déjà, là, ils cherchent un autre candidat.
Ben, c'est ça.
Tu sais, parce que ça fait pas, tu sais, c'est qui? Raymond Bachand, en 2012, s'était présenté, puis c'est un ancien péquiste, mais écoute, ça faisait 25 ans qu'il avait été chef de cabinet de Pierre-Marc Johnson. Tu sais, il y a pas mal eu d'eau qui ont coulé sous les ponts, tandis que Mme Anglade, ça fait juste 6 ans, là, tu sais. Puis, tu sais, à l'époque, elle savait très bien dans quoi s'embarquait, là, je veux dire, c'était la coalition Avenir Québec, c'est une fusion entre des anciens péquistes, puis l'ADQ, là. Donc, tu sais, quand j'entends dire aujourd'hui, ah, ben finalement, j'ai pas trop aimé ça. Hey, t'étais quand même la présidente fondatrice.
Ben, c'est ça, exactement.
Fait faut pas s'étonner, là, qu'il y a des libéraux, des vieilles mains, comme disait Jean Lapierre, qui cherchent un autre candidat, qui avait beaucoup misé sur André Fortin, qui avait espoir en Sébastien Proulx, Pierre Moreau, puis que là, ils continuent de chercher. Sauf que à la fin, c'est ceux qui se présentent qui peuvent gagner. Fait qu'ils peuvent bien chercher, là. Mme Anglade est là, elle se présente. Oui, elle a été à la CAQ. Maintenant, c'est pour ça que je reviens à ça. C'est quoi son message? Là, il n'y en avait pas aujourd'hui. Ouais. Ça va être pas son message cet automne parce que ça va être important. C'est le débat sur la laïcité, là. Ils pourront pas. Ils pourront pas l'éviter. Ben,
non.
Ils pourraient. Regarde, non, le Parti
non, québécois. Tu peux pas. Il va y avoir au moins quelqu'un, il va y avoir au moins un candidat qui va intervenir, qui va prendre position, ça va forcer les autres.
Ben, puis si tu veux te repositionner, te redéfinir, tu peux pas l'éviter. Le Parti québécois a évité la question du référendum pendant des années. Ben, il est arrivé ce qui est arrivé, hein. Ouais. Un moment donné, François Legault, cette année, en 2009, il est parti. Puis t'as des gens qui ont commencé à quitter le navire, puis les électeurs ont quitté le navire. Puis, tu sais, le Parti libéral a été victime aussi de cette baisse-là de l'appui à la souveraineté, parce que justement, il n'y avait plus vraiment de raison d'être. Puis quand il est arrivé à la dernière élection, ben, il ne savait pas quoi dire pour contrer la CAQ. D'ailleurs, et ça, c'est intéressant, car c'est qu'on dit souvent que la CAQ, dans le fond, a remplacé le PQ. Mais quand on regarde au net, la CAQ n'a pas vraiment remplacé le PQ. Le gros transfert des votes aux dernières élections, ils viennent des libéraux. Donc, les libéraux doivent convaincre des gens qu'ils ont laissé pour la CAQ à dernière élection. Là, c'est pas le PQ a perdu des plumes, mais beaucoup plus à QS qu'à la CAQ. Ils en ont perdu aussi à la CAQ. Donc, si tu veux, tu sais, puis il y a le réseau libéral qui est un réseau de gens d'affaires. Moi, je peux te dire qu'en région, là, la CAQ, elle va aller en chercher, là, maintenant elle est au pouvoir, là, donc tout ce réseau-là, là, qui gravitait autour du Parti libéral, va graviter maintenant à la CAQ. Donc c'est tout un défi pour Mme Anglade. C'est pour ça que je te dis, dans le contexte actuel du Parti libéral, c'est important le message, là.
Ouais.
C'est aussi important de dire que tu as des appuis, là.
Ton commentaire m'amène, au niveau des régions, là, à soulever le deuxième point faible, selon moi, de la candidature de Dominique Anglade. Le Parti libéral du Québec a un problème dans les régions. Et Dominique Anglade, elle ne pourrait pas être plus montréalaise comme candidate.
Ah oui, effectivement. C'est une question d'image, là. C'est sûr que c'est député de Montréal et ça va faire. Ben ça, mais ça, en même temps, tu sais, à part Sébastien Proulx et André Fortin, il n'y en avait pas d'autres qui ont été élus à l'extérieur du Québec. Donc, c'est sûr qu'elle, c'est son grand défi. Puis d'ailleurs, elle a bien compris, hein, à part en tournée, tout l'été, elle s'en va dans les régions, rencontrer les militants. Mais ce qu'on comprend, là, c'est qu'elle veut avoir le pouls, là, pour trouver des solutions, puis identifier justement le message dont je te parlais tantôt. Parce que les gens en région, tu sais, Carl, ça peut changer vite aussi en politique.
Oui,
c'est un bon message, c'est un gouvernement épuisé. Tu sais, avec aujourd'hui les moyens de communication, là, tu peux convaincre du monde. C'est pas insurmontable, là, pour le Parti libéral, mais pour ça, ça prend un bon message.
Changement de sujet, Nicolas, la crise du logement fait beaucoup jaser dans la région. On avait le ministre Mathieu Lacombe en entrevue plus tôt. Le constat est le même un peu partout. On se renvoie la balle de part et d'autre. Le ministre Lacombe dit qu'il faut que ça arrête, il faut qu'on travaille ensemble. Mais ça arrive pas pour le moment, là. Les décideurs se parlent pas ou se blâment l'un l'autre.
Ben écoute, si on a un taux d'inoccupation aussi bas puis qu'on a une crise du logement, c'est parce qu'on n'a peut-être pas assez construit de logement social. Puis pourquoi
clairement,
c'est si difficile de construire du logement social? Parce que là, je t'écoutais en entrevue, puis tu sais, on parle beaucoup dans les médias de la cinquantaine de ménages qui pourraient se retrouver à la rue, mais il faut pas oublier, car qu'il y a des gens qui s'en trouvent des logements, mais qui vont consacrer 50-60% de leurs revenus pour le payer. Ça va les appauvrir, ça va, tu sais, ils vont être obligés de couper ailleurs, là. Donc, tu sais, faut penser à ça. C'est pour ça que c'est une grande priorité, le logement social, selon moi. Puis moi, j'accepte pas, là, qu'on soit pas capable de construire du logement social. Et je donne raison, par contre, au maire de Gatineau, parce que on accusait la ville de dire que la ville aurait dû augmenter sa participation, là. Elle participe à 15% dans le financement du logement social. Je pense pas, là. C'est à Québec et à Ottawa de financer. Et comment ça se fait que... Puis moi, je comprends pas ça, là. T'as souvent des budgets qui sont adoptés au fédéral, au provincial. On annonce des grosses sommes en logement social, puis ça se retrouve pas sur le terrain.
Mais c'est ça.
Tu vois pas de construction, là.
Et justement, en parlant de construction, une des questions problématiques, c'est que les promoteurs sont de moins en moins intéressés à aller dans le locatif, construisent des immeubles, vendent des condos, ce qui semble beaucoup plus rentable pour eux et beaucoup plus simple que de gérer des bails, de gérer des locataires qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens financiers. Il faudrait trouver une solution pour créer peut-être des immeubles hybrides, là où on a des logements plus abordables et des condos plus luxueux, mais il n'y a peut-être pas de demande pour ça. C'est pas facile à gérer.
Ben, c'est pas facile, mais moi, j'avais une idée, en tout cas, parce que là, on a plusieurs arénas de quartier qui devront être démolies parce qu'il y a un manque de terrain à Gatineau, hein.
Ouais.
Et ça, c'est une belle opportunité pour la ville que ces terrains-là soient utilisés pour construire des logements sociaux. Ces arénas ne sont pas toujours dans des quartiers défavorisés, donc ça favoriserait la mixité sociale. Donc, tu sais, il faut saisir toute l'opportunité, mais le ministre Lacombe a bien raison, là. Pour ça, faut travailler en équipe. Il faut arrêter de se renvoyer à balle, puis il faut qu'on réussisse à construire du logement social, là. Parce que c'est par là que ça passe. C'est comme ça que les gens à faible revenu puissent se loger sans consacrer une part trop importante de leur revenu au logement. Puis moi, je pense que c'est fondamental, là. C'est un besoin d'avoir un logement abordable, décent. Il me semble que c'est la base, là. Donc, à Gatineau, là, c'est urgent d'agir pour construire des logements sociaux. Puis là, ben la soixantaine de subventions d'urgence, j'espère que l'OMH va être capable d'aider du monde avec ça, là.
Nicolas Brisson, en terminant vite, j'espère que tu t'entraînes pour le triathlon Gatineau, là, parce que toute l'équipe du 104.7 compte sur toi pour remporter la Coupe des entreprises.
Oui, monsieur, je suis prêt. Je fais mes courses. m'a donné mon 110%, comme on dit.
C'est ça qu'on veut. Merci, Nicolas.
Au plaisir.